Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Ouvrons le débat que vous avez chaque mois pour traiter d'un sujet d'actualité. Et ce mois-ci, le sujet n'est pas vraiment d'actualité, il est de tout temps. La question que nous nous poserons ce mois-ci, c'est qu'est-ce que l'art sacré ? C'est un thème difficile à cerner parce qu'en fait, nous sommes habitués à la présence d'œuvres d'art sacré dans nos églises, ainsi qu'à l'accueil de concerts de musique sacrée. Mais savons-nous exactement ce que signifie le sacré ? Quels sont les critères de choix pour admettre ces œuvres ? Quelles sont les conditions nécessaires pour produire une œuvre sacrée ? Qui peut devenir un artiste en art sacré ? Voilà les questions et encore bien d'autres que nous allons nous poser au cours de notre émission ce mois-ci. Et pour ce thème, nous avons donc autour de la table le père Roger Willem, prêtre mariste habitué de notre émission, le père Jean-Claude Pennetier, qui est prêtre orthodoxe, mais surtout pianiste de renommée internationale, et donc bien sûr habilité à nous parler de la musique sacrée, madame Annick Decroix, qui est conseillère pédagogique en art plastique, mais retraitée, et actuellement anime des groupes de peinture, elle ne veut pas dire enseignante, mais elle nous expliquera pourquoi, et monsieur Bruno Moisan, qui est professeur de musique et musicologue. Pour cette troisième émission, nous allons toujours rester dans l'art chrétien, l'art sacré, l'art religieux. Et je voudrais peut-être rebondir sur ce que nous disions à la fin de notre précédente émission. Pour finalement admettre une œuvre d'art dans l'Église, il est nécessaire ou il est inévitable que certaines personnes prennent les décisions, fassent des choix. Pour nous, ce que M. Moisan appelait l'expert. Alors, qui sont les experts dans l'Église en général ? Peut-être c'est plus facile de demander, par exemple, à un prêtre orthodoxe, l'expert pour une icône dans l'Église. Qui va décider de mettre une icône ? Le champ est plus limité, déjà.
Oui, c'est un accord avec la tradition, je veux dire, c'est toujours très très difficile de parler orthodoxie dans un cadre non orthodoxe, car on projette sur l'orthodoxie des modes de fonctionnement, des modes de contrôle, des modes de pensée qui sont propres au catholicisme, en fait. Tout agit plus par consensus, par tradition, par conciliarité, si on veut. Naturellement, ce qui est de l'icône est complètement lié à un art qui n'est pas subjectif, qui n'empêche qu'il y a eu quand même des hostiles assez reconnaissables dans des icônes, soit russes de tel ou tel siècle, soit des icônes grecques. Bon,
mais c'est quand même un art codifié.
C'est un art codifié, c'est-à-dire que chaque icône doit être théologiquement juste.
Donc c'est le prêtre qui vérifie qui est l'expert quand il regarde l'icône.
Je ne sais pas s'il y a des experts. Je sais que notre évêque, par exemple, aime mieux qu'on ait un collage, ce qu'on appelle
un
collage qui est théologiquement juste, qu'une vraie icône entre guillemets peinte selon toutes les formes traditionnelles, mais qui n'est pas juste théologiquement. Voilà.
C'est particulier à lui. Un autre évêque pourrait avoir d'autres. En général, on préfère une icône collée, en papier collé.
Ce qui est important, c'est qu'elle soit théologiquement juste. Si elle est en plus faite selon tous les modes traditionnels, c'est vraiment ce que l'on souhaite et ce que l'on aspire. Mais elle ne doit pas être une image pieuse. Elle doit être vraiment un
message théologique, concret, lisible en tout cas.
Théologique.
Mais question, si c'est de l'art sacré, les miracles peuvent arriver par l'art sacré, enfin du moins dans l'art primitif, mais On a connu quand même des icônes miraculeuses. Est-ce qu'une icône peut être miraculeuse en étant en papier collé?
Je n'en connais pas d'exemple.
Je trouve. Mais c'est dommage de perdre une qualité de vie.
Avant d'être, je vais prendre un mot épouvantable, avant d'être mise en circulation, si je dis, elle est bénie. Et elle est bénie, et après, elle va être priée.
Oui, donc elle va être presque sanctifiée, sacralisée par la prière des fidèles.
Exactement.
D'accord. Enfin, c'est dommage pour l'artiste qui aurait pu la peindre. Alors, d'autres remarques sur cette expertise, qui choisit quoi pour les œuvres religieuses, par exemple, musicales, je me tourne vers Bruno Moisan.
Oui, c'est assez compliqué. Alors, j'ai fait un moment partie de la commission d'art sacré qui disait ce que l'on pouvait mettre en concert et pas en concert.
En concert, je comprends, mais dans la liturgie.
Ah bah ça, la liturgie, la commission de l'art sacré du diocèse s'occupait des concerts dans les églises et pas du tout des questions de liturgie. Donc ça, moi, les questions de liturgie...
Et parce qu'on compose encore des messes, il y a encore des compositeurs modernes, oui. Contemporains,
oui.
Pour des œuvres...
Pas beaucoup, mais oui. Moins qu'au XVIIIe siècle.
Oui, bien sûr, mais il y en a eu une il y a quelques années.
Oui, je me souviens de...
Et justement...
Bah ça a marché.
Ben, elle était faite pour passer dans la liturgie ordinaire. Alors... Et il y a eu quelques essais de garder le Kyrie, de passer de l'œuvre présentée en concert à l'œuvre liturgique chaque dimanche.
Oui, mais...
Ben, ça n'a pas marché. Moi, j'en entends plus parler.
Hein, alors, en fait, en fait, il y a une version simplifiée qui peut être chantée par la foule. Alors, mais là, je crois qu'il y a quand même un problème spécifique au XXe siècle, hein, dans l'art musical catholique, qui est que, en étant très schématique, l'Église catholique chrétienne, enfin depuis le début, a toujours eu deux pratiques musicales différentes. Il y avait celle des chantres et des musiciens techniquement professionnels d'un côté, et les foules qui participaient à la liturgie. Et depuis le chant grégorien, à mon avis, jusqu'à quasiment Duruflé. Et je choisis l'exemple à dessein, ce qui était chanté par la foule était d'une sorte de simplification de la complexité des musiciens qu'on pourrait considérer professionnels, mais dans une grammaire qui était la même. Le problème qui se pose à partir du XXe siècle, et notamment à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que donc l'Église a toujours été coparticipante de l'évolution du langage musical, qui fonctionnait dans deux sphères différentes, une sphère essentiellement, effectivement, peut-être liturgique à l'intérieur du monde des clercs jusqu'au XVIIe siècle, et puis après, un petit peu différemment. Toujours est-il que quand même, jusqu'au début du XXe siècle, il y a une sorte de coparticipation de l'institution ecclésiastique et de ses musiciens à l'élaboration d'une culture musicale européenne globale. Et c'est vrai qu'avec le XXe siècle, il y a eu une séparation, c'est-à-dire que la musique dite contemporaine ou de la deuxième moitié du XXe siècle, tous les compositeurs ont commencé, on va pas réduire cette musique-là à lui, mais parce qu'il est mort au mois de janvier, tout simplement, à des gens comme Boulez, par exemple, ont fait que de toute façon, le langage musical atonal ou électroacoustique, etc., est impraticable, de toute façon, liturgiquement, pour le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on est passé du côté des messes guitares, mais parce que tout simplement, l'Église a changé de partenaire, c'est-à-dire elle a quitté le partenaire des musiciens savants pour aller vers celui de la musique populaire de grande diffusion, qu'on appelle la musique de masse, ce qui fait que finalement, il n'y a pas de différence entre « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux » et puis « Je cherche le visage du Seigneur ». C'est-à-dire que la dimension communautaire de l'après-concile Vatican II a justifié le fait de changer d'espace de référence sur le plan de la culture musicale.
Pour rester populaire.
Voilà. Et je pense que ça va être simplement... Ça sera une sorte de parenthèse dans l'histoire de la musique, parce que, y compris liturgique catholique, parce qu'avec la postmodernité et le retour au langage tonal, le retour à tout un ensemble de... Le fait de quitter, en fait, les avant-gardes atonales va, à mon avis, permettre de reconnecter à nouveau ce mouvement qui a été séculaire.
Mais c'est pas encore en...
Non, mais ça va venir. Je vois des jeunes musiciens de la génération de mon fils, par exemple, qui a 25 ans, qui est à la fois musicien de jazz et qui en même temps a fait du contrepoint médiéval avec dans un conservatoire à Paris, et puis qui aussi fait de l'harmonie au CNSM, etc. Lui, ce sont des musiciens qui, si on leur demande de composer des messes, vont être capables de pouvoir fonctionner sans difficulté. Mais parce que la postmodernité, métissant tout un ensemble de pratiques musicales, va, à mon avis, permettre ça. Mais c'est vrai que la radicalité de l'avant-garde entre 1935 et l'an 2000 a rendu des choses totalement impraticables. D'ailleurs, c'est pour ça que Messiaen s'était pas cassé la tête. Hein. Lui, il disait, oh ben, pour la liturgie, il y a le chant grégorien, et puis par contre, moi, je mets du bon Dieu partout, y compris dans mes quatuors, dans mon quatuor, etc. Donc là, on a eu de vrais apories. Hein, donc, mais à mon avis, ça durera pas.
On verra bien,
j'espère.
Effectivement, le chant populaire, est-ce qu'il est encore sacré? Le chant que vous disiez qui ressemble à tous les garçons et les filles, est-ce qu'on peut appeler ça encore musique sacrée?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de musiciens qui étaient issus du renouveau grégorien du 19e siècle, commencé par Chateaubriand et prolongé par Liszt et Dortig, étaient certainement indisposés pendant très longtemps. Il y a, à mon avis, oui, la musique de l'après Concile Vatican II suscite de très grands débats.
Est-ce qu'on est... Vous sentez dans l'art sacré quand on vous met les petits chants de guitare
Vraiment pas.
Ben moi non plus.
Vraiment pas. Et je dois dire que autant je suis avec une sensibilité œcuménique extrêmement affirmée et avec de grandes amitiés pour des cercles catholiques, mais quand ils se mettent à faire de la chanson, là, j'avoue que...
Le sacré a tendance à s'évanouir un peu.
Oui, parce que, je veux dire, dans toute expression artistique, on ne peut pas dissocier ce qui est le fond et ce qui est la forme.
Oui, je suis d'accord.
Et on revient au fait qu'un sujet, pour être traduit vraiment, ne peut pas être plaqué, je veux dire... C'est exactement ce qu'a montré Bruno. Je veux dire, on ne peut pas prendre un texte dit sacré et le coller sur une chanson. Ça ne marche pas parce que la musique est la plus forte.
Oui.
Donc ça, c'est une chose que j'ai beaucoup vue. Avec un metteur en scène avec qui j'ai fait trois spectacles. Et il disait toujours, on peut pas se battre contre la musique, c'est elle qui gagnera. Parce qu'elle a des moyens extrêmement sournois.
D'entrer dans la personne.
Voilà, d'entrer dans la personne. Donc ce qui passe, c'est le message musical. Et si la forme musicale n'est pas en bonne adéquation avec ce qu'elle véhicule comme prière et comme pensée, je ne dis pas que le message qui ne passe plus, mais il est quand même faussé.
Mmh. Vous rejoignez ce que disait Benoît XVI, j'avais assisté à une de ses conférences, il n'était pas encore Benoît XVI, il était cardinal Ratzinger, mais lui, il avait parlé justement... d'une chose qu'il refusait pour l'Église, c'était la musique rock, métal et autres. Il dit le message qui passe dans certaines musiques un peu trash comme ça ne peut pas être accepté dans l'Église, quelles que soient les paroles qu'on mette dessus, parce qu'il disait ça. Il passe un message de déstructuration interne qui n'est pas compatible avec même les paroles sacrées qu'on pourrait mettre dessus. Donc je pense que Benoît XVI était conscient de ça.
Et pourtant il écrit.
Et pourtant, donc c'est pour ça que je cite, parce qu'il était très ouvert à la modernité malgré tout.
Au-delà de ses expressions les plus typiquement religieuses, l'art, quand il est authentique, a une profonde affinité avec le monde de la foi. À tel point que même lorsque la culture s'éloigne considérablement de l'Église, il continue de constituer une sorte de pont jeté vers l'expérience religieuse. Parce qu'il est recherche de la beauté, fruit d'une imagination qui va au-delà du quotidien, l'art est par nature une sorte d'appel au mystère.
Oui, mais malgré tout, il disait que certaines choses n'étaient pas dans ça.
Oui.
Pardon, il y a encore un petit bout.
Oui, même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme ou les plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voix de l'attente universelle d'une rédemption.
Oui, mais ce n'est pas du chant liturgique. On n'est plus dans la liturgie. C'est plus l'art dans le monde. Mais c'était par rapport à la messe. Et à la présence dans la messe, on ne peut pas mettre n'importe quel rythme. Il y a des rythmes déstructurants qui agressent.
Voilà. Alors moi, je suis tout à fait d'accord aussi pour ce qui concerne la peinture aussi. Hein. Je crois qu'une œuvre peinte a sa place dans l'Église si elle est illustratrice de la parole.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Ce que j'aimerais dire, qui n'est pas peut-être directement lié, qui est un retour en arrière, si j'ose dire, c'est qu'on a parlé que ce qui est du sacré, c'est dans un sens ce qui est mis à part. Bon. Et c'est là où je trouve que, surtout maintenant, dans notre monde où tout ce qui est... écoute est vraiment très amoindri. C'est-à-dire que l'on est dans le zapping. Il faut que
on est bombardé de sons.
Il faut que tout passe vite. Il faut que bon. Il y a quelque chose qui relie ce qui est culturel et ce qui est spirituel. C'est que les gens qui vont à une exposition, qui vont au théâtre, qui vont au concert, justement, ils mettent à part. Et sacrifient, dans le beau sens du mot, un temps de leur vie pour être à l'écoute, pour être dans la contemplation, pour être dans la communion avec un texte. Et c'est là où, à mon avis, ce qui se relie complètement ce qui est spirituel et ce qui est culturel. Et j'ai eu une discussion avec un prêtre du département, parce qu'il y avait mon fils qui devait faire une création qui était, je veux dire, abstraite musicalement. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait que de la percussion. Bon, il y avait tout un univers sonore et tout. Et ce prêtre, bien qu'il y ait l'autorisation du diocèse, enfin c'était passé par une commission, je ne sais pas comment, mais lui-même, à titre personnel, disait « mais je ne peux pas faire ça pour mes fidèles dans une église ». Et je l'ai convaincu de dire oui avec cet argument-là. C'est qu'à l'heure actuelle, on doit, si je veux dire, faire front commun entre gens du monde spirituel, du monde religieux et du monde culturel, parce que ce qui nous relie, c'est d'être des lieux d'écoute. Ça peut être écoute de la parole, soit parole sacrée, soit parole qui nous rejoint intérieurement, mais ça peut être écoute ou contemplation artistique aussi.
Mais ça pose quand même une question. Il y a eu justement un concert, moi, qui m'a posé une question à la cathédrale, l'accueil de chants chamaniques, là.
Ça me semble pas compatible, mais...
Vous pouvez développer, parce que moi, justement, je dis ça, on dit c'est culturel, on ouvre, c'est du chant sacré, mais qu'est-ce qu'on fait venir dans une église quand on invite des créateurs chamaniques
Le problème, c'est que depuis, finalement, le 19e siècle, la notion de spiritualité est devenue tellement floue qu'elle finit par contaminer, y compris les
Même
églises
ça
dans leur propre système de représentation.
Il y a quand même un danger aussi, vous voyez, à accueillir... on ouvre une porte sur des choses qui sont parfois pas compatibles, sous couvert de sacré.
Oui, tout à fait. Alors, pour en revenir à ce que disait le père Pentier tout à l'heure sur la relation entre le fond et la forme, si on prend l'exemple du rock, à mon avis, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, le rock vient d'un monde qui est totalement, on peut même dire, pour un certain nombre
démoniaque,
de pièces de rock, totalement démoniaque, et totalement incompatible avec la spiritualité chrétienne, etc. Et ce qu'il dit sur le fond et la forme est tout à fait passionnant, parce que, mettons-nous dans l'exemple fictif, je ne suis pas sûr que ça soit arrivé, d'un musicien de rock qui se dirait « je vais composer dans mon langage pour la liturgie ». Je pense qu'il y a deux cas de figure possibles. Le qu'a évoqué le père Pentier tout à l'heure, qui est celui du plaquage avec la force de la musique par rapport au reste. Effectivement, si plaquer un texte religieux sur un langage conçu d'une manière diamétralement opposée à la spiritualité chrétienne, effectivement, à ce moment-là, on va dans le mur, dans le sens où, effectivement, la force de la musique détruira le message spirituel. Et dans l'autre cas, la relation fond-forme et la force de la spiritualité, je pense, obligerait à ce moment-là à métaboliser le langage du rock d'une manière telle qu'il deviendrait méconnaissable. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait peut-être une batterie, on aurait peut-être deux guitares électriques, mais à ce moment-là, la force de la méditation du texte engendrerait une destruction du langage du rock. Et je pense que... une transformation telle que les présupposés systémiques qui, entre les représentations, les thèmes, le langage de la musique, entre ce qui relève du symbolique et du strictement musical et sonore, se métaboliseraient d'une manière telle qu'à ce moment-là, ça deviendrait quelque chose de différent et de vraisemblablement passionnant.
La force de la grâce sur le créateur. Oui, ça c'est sûr, mais c'est peut-être improbable.
Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'on a bien dit l'idée de séparation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une antinomie, enfin, il y a une séparation, et après, effectivement...
Et jusqu'à quel point est-ce que les messes et la liturgie ont besoin d'art ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça fonctionne sans art ?
On peut s'en passer, les messes basses d'autrefois n'avaient pas d'art.
Donc le sacré n'a pas besoin d'être exprimé. Ou est-ce qu'il reste quand même une forme de sacré dans les messes basses qui soit intéressante au niveau artistique? Moi, je suis assez partisan du dépouillement total. Alors j'essaie toujours de prêcher vers ce dépouillement, mais...
Il y a Cluny, il y a Citeaux. Hein. C'est... Toujours il y aura. Est-ce que pour Dieu c'est tout ce qu'il y a de plus beau, voire de plus somptueux?
Pour Dieu, ça je
sais pas. Ce qui est dans la Bible. Hein. Tout, c'est voilà. Et où est-ce que ce beau, bon, encore une notion, bon, on va pas s'apesantir. Est-ce que ce beau ne doit pas nous sortir de la prière et de la contemplation? Mais je pense qu'on a besoin de beauté. Et que nos frères protestants, Dieu sait si je les aime et que je les respecte, ils ont trop peur de la beauté. Et il faut pas en avoir peur. Il faut qu'elle soit canalisée, qu'elle ne soit plus là en tant qu'elle-même. Mais Dieu est beau.
Oui.
Tout à l'heure, vous disiez faire front commun. Dans les temps qui courent, franc commun. Hein. Et je crois que l'art, hein, que ce soit la peinture ou la musique, peuvent justement apporter ce que les gens n'ont plus le temps de trouver, peut-être que raccrocher par le biais d'un médium comme l'art ou la peinture ou la musique, ça peut les réconcilier avec la prière, avec la méditation, avec la présence de Dieu.
Oui, je fais une petite anecdote, mais quand on a chanté pendant quelque temps dans un chœur pour une église, je peux vous dire que dans le chœur, le fait de chanter, et pourtant c'est un lieu qui devrait être un lieu de fraternité par excellence, on chante ensemble pour l'art et pour le Christ. Je peux vous dire que les distractions sont infiniment multiples et que souvent les gens traversent les messes et parfois des années de messes sans savoir du tout ce qui s'est passé, autre que leur petit conflit, tu chantes mon voisin, je chante pas bien. C'est une source, en tout cas pour les chanteurs en chœur, c'est souvent une source de distraction. On est très loin de la préoccupation religieuse.
C'est de l'humain, bon.
Oui, mais justement, je trouve que quand on chante dans un chœur en paroisse, c'est souvent distrayant de l'essentiel.
Oui, alors si on revient à notre bon pape Jean XXII et à sa décrétale de 1325, comment a-t-il justifié finalement l'organum et la polyphonie et tout ça? En fait, il a justifié d'une manière très pratique et pragmatique par la notion de solenniser. C'est-à-dire, il dit, par cette mesure, nous n'entendons pas empêcher que parfois, foi et surtout au jour de fête, à savoir aux messes solennelles et dans les offices divins ci-dessus, on ne place sur le chant ecclésiastique tout simple quelques consonances qui en relèvent la mélodie, à savoir l'octave, la quinte, la quarte et les consonances du même ordre, mais toujours de telle sorte que l'intégrité du chant lui-même demeure inviolée, que rien ne soit changé de ce chef au rythme correct de la musique, et pourvu surtout que l'on apaise l'esprit par l'audition de telles consonances, que l'on provoque la dévotion, et que l'on ne permette pas d'engourdir l'âme de ceux qui chantent à Dieu. Fait à Avignon, l'an 9 de notre pontificat. Je pense que on comprend très bien comment ce bon pape Jean XXII a pensé les choses, et je pense assez subtilement en fait. Mmh. C'est-à-dire que la somptuosité fait aussi partie, et la beauté fait aussi partie de l'art, y compris liturgique. Oui. Et c'est, je pense aussi le baroque l'a justifié aussi comme ça, c'est-à-dire que, attendez, quand vous regardez la Jérusalem céleste de l'Apocalypse, toutes ces pierreries somptueuses, etc., on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas avoir cette somptuosité aussi. En fait, somptuosité et dépouillement ne sont pas du tout incompatibles, simplement c'est questions
pratiquement
d'ajustement.
Quand même, les somptuosités musicales ou picturales, ce sont des spécialistes techniciens qu'on va chercher ailleurs et payer. Historiquement, on a vu ça, et que ce sont parfois des grands artistes, mais complètement païens, qui vont faire rêver.
Ça c'est l'art et la morale. Ça c'est la relation entre l'art et la morale. Ça c'est un problème à la fois philosophique, moral, spirituel, etc.
Je me demande jusqu'à quel point il vaudrait pas mieux parfois plus simple, mais des gens de piété, que d'aller chercher des grands artistes, mais.
Couturier avait fait le choix inverse. Hein. Il allait prendre, il allait commander Le Corbusier, Picasso. Simplement, il cite un jour dans son journal, il discute avec Picasso et Picasso lui dit « Oh, vous savez, finalement, quand on peint, on recherche les extases de notre première communion. » C'est une phrase de Picasso.
Ah oui. Oui, ben, ça, le pire païen est toujours un chrétien qui s'ignore.
Oui, en devenir, un chrétien.
Un chrétien en devenir, c'est sûr. Mais l'éducation du goût des fidèles passe aussi par, effectivement, l'entendre des œuvres extraordinaires ou de voir des œuvres extraordinaires. Nous arrivons bientôt à la fin de notre parcours. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose qui vous paraisse importante ? Il nous reste quelques minutes.
Je crois que plus nous développerons le sens de la beauté, la capacité d'admiration, on devient, comme saint Augustin l'a dit, capacité de Dieu. L'art fait surgir ce que nous portons, nous, souvent inconsciemment, et qui est une présence, dans le sens fort du terme. C'est la présence réelle. La présence réelle n'est pas simplement l'Eucharistie. La présence réellement, présence. C'est chacun d'entre nous qui est un artiste et un artisan en même temps. L'artiste qui accepte de voir au-delà de lui-même, de s'émerveiller, de s'étonner. Et puis l'artisan, c'est celui qui, avec son cœur, avec ses mains, avec son intelligence, essaie de faire avec un objet, une mélodie, un poème. Comme le disait récemment un écrivain libanais qui se trouve ici à Chartres, j'ai regardé la vie des hommes et chacune m'apparaissait, comme le dit le poète, elle m'apparaissait comme une fleur qui s'épanouissait. Et je regardais cette fleur, et avec ma main, je lui donnais forme et vie. Et cette fleur devenait un visage. Le visage de celui que vous êtes, de celui que je suis, de celui qui me fait grandir et m'épanouit.
Moi, j'ai envie de dire qu'un
peu... Nous arrivons un peu à la fin de notre émission. Si vous pouvez aller très rapidement.
Être capable de prendre le chemin qui est le sien, sachant que ce chemin va mener à Dieu, qu'elle porte le chemin. Et que tu restes capable de t'émerveiller sur tout ce que tu vois comme beauté sur ce chemin, te conduit
c'est
à Dieu.
C'est un chemin vers Dieu. Bon, je vous dis au revoir, chers auditeurs. Nous avons dépassé même notre temps d'antenne, mais le sujet était extrêmement vaste. Merci à tous nos intervenants de vous être engagés sur cette voie périlleuse.
Radio Grand Ciel.